Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant en partenariat avec l'Église protestante unie de Nîmes. Le culte qui va être diffusé sera présidé et animé par le pasteur Lionel Tambon, aumônier protestant au Centre hospitalier universitaire de Nîmes. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Bonjour, soyez toutes et tous les bienvenus. Je vous propose, pour entrer dans ce moment de culte, un extrait du Petit Prince de Saint-Exupéry. Je vous lis le passage où le Petit Prince rencontre un aiguilleur de train. « Bonjour, dit le Petit Prince. »« Bonjour, dit l'aiguilleur. »« Que fais-tu ici ? » dit le Petit Prince. « Je trie les voyageurs par paquets de 1000, dit l'aiguilleur. J'expédie les trains qui les emportent tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. » Et un rapide illuminé, grondant comme le tonnerre, fit trembler la cabine d'aiguillage. « Ils sont bien pressés, dit le Petit Prince. Que cherchent-ils ? » « L'homme de la locomotive l'ignore lui-même, dit l'aiguilleur, et gronda en sens inverse un second rapide illuminé. « Ils reviennent déjà ? » demanda le petit prince. « Ce ne sont pas les mêmes, dit l'aiguilleur, c'est un échange. « Ils n'étaient pas contents là où ils étaient ? » ?»« On n'est jamais content là où on est, dit l'aiguilleur, et gronda le tonnerre d'un troisième rapide illuminé. « Ils poursuivent les premiers voyageurs ?» demanda le petit prince. « Ils ne poursuivent rien du tout, dit l'aiguilleur. Ils dorment là-dedans, ou bien ils bâillent. Les enfants seuls écrasent leur nez contre les vitres. »« Les enfants seuls savent ce qu'ils cherchent, fit le petit prince. Ils perdent du temps pour une poupée de chiffon, et elle devient très importante. Et si on la leur enlève, ils pleurent. « Ils ont de la chance, dit l'aiguilleur. » Frères et sœurs, nous remplissons souvent, nous aussi, notre temps comme une armoire comble. Nous courons d'une activité à une autre et nous entassons nos années sans goûter la beauté du présent. Et puis, voici le culte qui fait renaître en nous le désir et l'attente. Voici ce temps où Dieu nous précède, et où il nous invite au calme et à l'écoute. Nous allons de travaux en divertissement, et nous ignorons finalement le repos. Nous courons éperdument après on ne sait quelle réussite et quel but. Et puis voici le culte où la parole de Dieu ouvre, chaque fois à nouveau, un espace dans nos vies pour accueillir et pour aimer, pour recevoir, et pour donner. C'est le temps de la grâce, c'est le temps de la paix. Amen.
Je crois et j'espère la grâce d'un Père, celui qui bénit entre dans ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère Jésus comme un frère, un regard d'ami posé sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. Je crois et j'espère l'esprit de lumière, une force infinie souffle sur ma vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant. vivant, je crois et j'espère une nouvelle terre, un champ des pays unis pour la vie. Crois seulement, crois maintenant, sois seulement paisible et vivant, sois seulement paisible et vivant.
Je suis sorti, Seigneur. Dehors, les hommes et les femmes sortaient aussi. Ils allaient, ils venaient, ils marchaient, ils couraient. Les vélos couraient, les voitures couraient, les camions couraient, la rue courait, la ville courait, tout le monde courait. Ils couraient pour ne pas perdre de temps. Ils couraient à la suite du temps, pour rattraper le temps, pour gagner du temps. Au revoir, monsieur, excusez-moi, je n'ai pas le temps. Je repasserai, je ne puis attendre, je n'ai pas le temps. Je termine cette lettre car je n'ai pas le temps. J'aurais aimé vous aider, mais je n'ai pas le temps. Je ne puis accepter faute de temps. Je ne peux réfléchir, lire, je suis débordé, je n'ai pas le temps. J'aimerais prier, mais je n'ai pas le temps.
Jour après jour vers la vie.
Seigneur, dans le vacarme des jours, dans le tumulte qui dévore nos vies, dans le vagabondage de nos existences, tu nous accordes le temps de la pause et tu nous apprends à peser la densité de chaque instant. Alors nous t'en prions tous ensemble, viens nous habiter. Ouvre des brèches de liberté et d'amour dans le sable mouvant de notre histoire et fais germer en nous des lendemains qui chantent la joie d'aimer. Amen. Pour notre méditation d'aujourd'hui, je vous propose un passage de l'Évangile de Marc, au chapitre 7, les versets 31 à 37. Il y est question d'une rencontre, entre Jésus et un homme qui entend et qui parle mal. Je vous lis ce passage. Jésus quitta le territoire de Tyr et il revint par Sidon vers la mer de Galilée, en traversant le territoire de la Décapole. On lui amène alors un sourd qui, de plus, parlait difficilement, et on le supplie de lui imposer la main. Le prenant loin de la foule, à l'écart, Jésus lui mit les doigts dans les oreilles, puis il les humecta de salive et il toucha sa langue. Levant son regard vers le ciel, il soupira, et il lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt, les oreilles de l'homme s'ouvrirent. Sa langue se délia et il parlait correctement. Jésus leur recommanda de n'en parler à personne, mais plus il le leur recommandait, plus ceux-ci le proclamaient. Ils étaient très impressionnés et ils disaient « Il a bien fait toute chose, il fait entendre les sourds et parler les muets ».
Viens Saint-Esprit, viens par ton vent remplir le temple que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, souffle puissant, brise d'amour, courant de vie. Souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle sur moi, souffle, souffle sur moi, souffle vent de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ta pluie, mouiller la terre que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, flot impétueux, source d'amour, fleuve de vie. Coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule sur moi, coule, coule sur moi, coule pluie de Dieu. Viens, Saint-Esprit, viens par ton feu brûler l'offrande que je suis. Oh, viens, Saint-Esprit, feu dévorant, brasier d'amour, flamme de vie. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, embrase-moi, brûle. Embrase-moi, brûle le feu de Dieu.
On amène à Jésus un homme atteint de surdité qui, de plus, parle difficilement. Un homme qui parle difficilement, sûrement parce qu'il est sourd. Qui se cache derrière ce « on » de la famille, des amis, la foule? On ne sait pas exactement. Ce « on » donne en tout cas à penser qu'il s'agit de plusieurs personnes. Une deuxième question peut aussi nous venir à l'esprit. Pourquoi ces « on », ses amis, ses proches, amènent-ils cet homme sourd à Jésus? Après tout, cet homme n'est pas aveugle, il aurait très bien pu faire le déplacement tout seul. Sauf que, évidemment, du fait de sa surdité, eh bien, il n'a pas pu entendre parler de ce Jésus qui arrive à Sidon. Il n'a pas pu entendre parler de sa réputation de thérapeute. Paraît-il, ce Jésus fait entendre les sourds et parler les muets. Alors, cet homme sourd a à nouveau besoin, comme tous les jours en somme, qu'on l'aide à décoder le monde qui l'entoure pour ne pas rester muré, enfermé seul dans un monde de silence. Il a besoin, encore une fois, que ses « on », ses proches, prennent pour lui la décision et l'amènent aujourd'hui ici et demain là-bas. Ce qui montre que des petites phrases d'apparence anodine en disent parfois long sur ce qui se joue réellement pour une personne à un moment sensible de sa vie. Cette petite phrase « on amène à Jésus un sourd qui de plus parlait difficilement » donne tout de suite l'épaisseur et la densité de la situation très concrète que Jésus va rencontrer. Pour cet homme, la rencontre va avoir une résonance décisive dans sa vie. Ce n'est pas seulement de sa maladie ou de son handicap dont il va être question, mais de tout son rapport au monde, de sa capacité à prendre sa propre vie en main et de sa liberté de faire ses propres choix. C'est toute la richesse aussi des évangiles de montrer la complexité et l'ambiguïté des situations. Heureusement que ses proches sont là pour accompagner au quotidien cet homme dans les actes les plus courants de la vie, jusqu'aux décisions les plus importantes. Mais nous entendons aussi la lourdeur de cette situation qui envahit non seulement la vie de cet homme sourd, mais aussi la vie de ses proches. Toute la vie se met parfois à tourner autour de l'aide à apporter à un proche, un parent, un conjoint, un enfant. L'Évangile, nous le voyons, n'est pas un livre qui traite de situations abstraites ou de situations lointaines, vous savez, qui ne concerneraient que le premier siècle de notre ère. Il parle finalement de nos situations concrètes de la vie de tous les jours, encore aujourd'hui. Dans le récit d'aujourd'hui, d'autres, des proches, font le choix d'amener cet homme sourd à Jésus parce qu'ils ont l'intuition que ce sera bien pour lui. Et ils ont finalement bien fait de le faire puisqu'il va en ressortir du positif pour lui. Mais en même temps, on ne sait pas s'ils ont vraiment pris le temps de lui demander à cet homme sourd son avis. Est-ce qu'ils lui ont demandé s'il avait envie de venir rencontrer ce Jésus ? Peut-être pas. Sans doute pas même d'ailleurs, parce qu'ils n'ont pas trouvé le moyen de le lui expliquer. Comment expliquer à un homme sourd, alors qu'à cette époque-là, on sait assez peu lire et écrire, comment lui expliquer qui on va rencontrer ? Le commencement de ce récit souligne donc l'absence de cet homme à lui-même, qui voit en quelque sorte défiler sa vie en observateur passif. Et c'est peut-être pour ça, pour cette raison précise, que Jésus commence par prendre cet homme à part. Vous l'avez entendu, il commence par l'extraire non seulement de la foule, mais aussi de ses proches, de ses amis, de sa famille qui l'ont amené jusqu'à lui. Donc, le premier acte de Jésus pour accompagner cet homme sur un chemin de guérison consiste à l'emmener à l'écart. Il consiste à le prendre en tête-à-tête pour lui rendre sa part de subjectivité, pour le rendre à nouveau sujet à part entière de sa vie. C'est à lui et à lui seul que Jésus s'adresse dans la suite du récit. Et dans un contexte culturel et religieux du 1er siècle en Palestine, en Israël, un contexte culturel et religieux donc qui fait volontiers de la maladie ou du handicap une impureté, Jésus se laisse aller à faire un geste totalement surprenant et impertinent aussi. Il se met à toucher les parties atteintes du corps de cet homme, ce que sans doute personne n'avait fait avant lui. Pourquoi Jésus pense-t-il que ce toucher est important pour cet homme ? Pourquoi ne se contente-t-il pas d'une parole de guérison comme il le fait tant de fois par ailleurs ? Ou pourquoi ne se contente-t-il pas de lui imposer la main sur les épaules ? Après tout, c'est seulement cela que demandent les proches. Sans doute pour plusieurs raisons. Peut-être d'abord pour pouvoir associer cet homme sourd à l'acte de guérison qui va avoir lieu pour lui. Pour pouvoir lui permettre de comprendre tout simplement ce qui va se passer et le rendre participatif. Car, on le disait tout à l'heure, comment signifier à quelqu'un de sourd que c'est de sa surdité et de sa difficulté à parler dont il va être question, autrement qu'en touchant ses oreilles et sa langue. Mais Jésus a sans doute autre chose encore en tête. Par ce geste, il montre à cet homme qu'il n'a pas peur de le toucher. Il n'a pas peur que quelque chose de l'ordre d'une impureté passe de cet homme sourd à lui, Jésus. Il n'y a donc rien d'impur en cet homme, rien d'indigne en lui. Cet homme peut se réconcilier avec l'image qu'il a de lui-même et avec l'image qu'il a de son propre corps. C'est un deuxième acte fort qui est posé sur le chemin de guérison de cet homme. Vient alors le dernier acte qui aboutit à la guérison elle-même. Jésus pousse un soupir. C'est un détail qui peut paraître à la lecture de ce récit tout à fait anecdotique. Et pourtant, plus je relis ce passage, plus il me semble que beaucoup de choses se jouent finalement dans ce soupir. D'abord, c'est à prendre en compte, c'est la seule fois dans les évangiles que Jésus pousse un soupir. Ici, précisément, dans cette rencontre avec cet homme sourd et muet. Il doit donc se jouer dans ce soupir quelque chose d'important. Mais pourquoi soupire-t-il ? Comment comprendre son soupir ? Est-ce un soupir qui témoigne d'un agacement ou d'un effort particulier de sa part face à une guérison complexe ? Ou bien ce soupir montre-t-il que Jésus est ému par la situation de cet homme ? On ne sait pas trop. Et si ce soupir était simplement à entendre comme une respiration ? Et s'il était simplement à entendre comme le mouvement d'un souffle qui se transmet, qui se partage et qui guérit ? C'est un phénomène connu aujourd'hui lorsque deux personnes se parlent en face à face, elles finissent au bout d'un moment, sans s'en rendre compte, par ajuster et régler leur respiration l'une sur l'autre. Et si c'était un peu de ça dont il retournait dans ce face-à-face de Jésus avec cet homme ? Cet homme qui a, nous dit le récit, les oreilles et les cordes vocales bouchées. Cet homme dont le besoin vital est qu'un nouveau souffle fasse sa place et circule en lui. On amène à Jésus un homme qui est sourd et qui a du mal à parler. Ses oreilles bouchées ne permettent pas au souffle d'entrer. Sa langue engourdie ne permet pas au souffle et à la parole d'en sortir. Il y a en lui comme une situation de blocage, de soupir qui ne peut pas se faire. Son corps, mais aussi tout son être, sont rendus hermétiques à ce qui l'entoure. Aucun souffle de vie ne peut se frayer un chemin. Dans la Bible, le premier à avoir eu besoin qu'un souffle de vie emplisse ses poumons et le rende vivant, c'est Adam. En Genèse 2:7, nous lisons « Le Seigneur Dieu modela l'homme avec de la poussière prise du sol. Il insuffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » C'est-à-dire un être désormais en capacité de parler, de dialoguer avec son vis-à-vis et avec son Créateur. Or, c'est précisément ce qui reste bloqué en cet homme sourd que rencontre Jésus. Il lui manque un souffle pour que la parole et la vie soient possibles. Alors Jésus pousse un soupir, un souffle, qui initie en cet homme un mouvement de recréation. La création n'est pas derrière nous, elle est devant nous, comme une promesse pour le jour qui vient. Jésus lève son regard vers le ciel pour indiquer d'où l'aide va venir, comme il le fait dans les récits de multiplication des pains et dans le récit de résurrection de Lazare. Il pousse un soupir. Ce soupir passe de Jésus à cet homme. Ce soupir agit en lui. Ce soupir l'amène à libérer un souffle trop longtemps retenu et à prendre une nouvelle respiration. Et c'est ainsi que celui qui était sans voix s'éveille enfin à la parole, c'est-à-dire tout à la fois à sa liberté, à son histoire, à sa capacité de faire des choix et à prendre sa vie en main. D'homme objet, il devient homme sujet. Alors, frères et sœurs, ce récit est pour nous. Il est pour nous. Car cet homme, sourd et muet, qui souffre d'une parole qui peine à s'exprimer, c'est celui que nous sommes, nous aussi, parfois, lorsque des situations viennent à nous étouffer. Ce récit est pour nous, il parle de nous, et il offre comme une promesse sur notre chemin. La promesse qu'un souffle nouveau nous attend, jusqu'aux replis les plus cachés, jusqu'aux zones les plus obscures de notre existence, afin d'aider ce qui, en nous, a vocation à s'ouvrir et à se déployer. La promesse qu'une brise légère viendra mettre une respiration nouvelle dans chacune de nos journées, au cœur même de ce que nous vivons. Amen.
Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Plus de cris, plus de larmes, plus de morts, plus de deuil, plus de plaintes, plus de mal. Toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi. Plus de nuit, plus d'angoisse, plus de haine, plus de guerre, plus de peur, plus de soif, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour moi. Il fait toutes choses nouvelles, toutes choses nouvelles pour toi.
Et nous nous retrouvons dans la prière d'intercession que nous continuerons en disant ensemble la prière du Notre Père. Seigneur, merci pour ces moments où tu nous remplis de ta force et de ta plénitude. Merci pour ces moments où, pour nous, d'une certaine façon, le royaume est déjà là. Nous aurions bien envie de planter nos tentes et de nous installer là, près de toi, loin de ceux qui souffrent et qui doutent. Mais toujours, à nouveau, tu nous appelles. Tu nous invites à repartir, à nous remettre en route. Alors, Seigneur, tire-nous de notre confort et de nos conformismes pour nous remettre en chemin. Toi qui es venu partager les joies et les peines des hommes et des femmes, c'est au milieu d'eux que tu veux nous rencontrer. Alors, pour te confier ce que nous portons dans notre cœur, avant de nous remettre en route vers les bruits et l'agitation du monde, nous te disons ensemble cette prière que Jésus le Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Avant de nous quitter, recevons, frères et sœurs, la bénédiction de Dieu dans notre cœur et dans notre vie. Que le vent dans vos cheveux vous apporte le bruit de la vie. Que vos pieds laissent dans la poussière des traces d'espérance. Que dans l'obscurité, vous entendiez battre le cœur de l'autre. Que vos mains se tendent comme des portes qui s'ouvrent. Que vos bouches transmettent ce qu'il vous a été donné de recevoir. Que vos oreilles accueillent ce que les mots ne disent qu'à demi. Et que la grâce de Dieu vous accompagne, même là où vous ne pensiez pas aller. Amen.
Que la grâce de Dieu soit sur toi. grâce de Dieu soit sur toi. Pour t'aider à marcher dans ses voies, reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir du site internet de cette église, nimes-église-protestante-unie.fr, ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été animé par le pasteur Lionel Tambon, aumônier protestant au Centre hospitalier universitaire de Nîmes. Restez à notre écoute pour la suite de nos programmes.
Que la grâce de Dieu soit sur toi, pour t'aider à marcher dans ses voies. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie, dans l'amour. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Reçois tout son pardon et sa bénédiction. Va en paix dans la joie.